messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, dans la matinale, nous allons parler d'un film qui sera diffusé ce dimanche au Majestic à Compiègne. Ça s'appelle Le Chêne et ses habitants. On en parle juste après le générique. Pour m'accompagner ce matin, Didier Caron, président de Oise Nature. Bonjour Didier, bienvenue.
Bonjour tout le monde.
On a eu la chance d'assister à la projection du film Le Chêne et ses habitants qui sera projeté ce dimanche à 16h au Majestic à Compiègne. On en parlera au cours de l'émission. On va commencer un petit peu par parler de Oise Nature. Vous êtes le président de Oise Nature. Quel est vice-président de Oise Nature. Parce que sur le site, j'ai vu que c'était marqué président.
Non, je pense que c'est une erreur, c'est vice-président.
Et c'est votre frère qui est président, c'est ça?
Exactement.
C'est une association de famille.
Non, pas que.
Alors justement, parlons un petit peu de Oise Nature. Oise Nature rassemble plusieurs associations. Est-ce que nous pouvons faire un petit peu l'historique de Oise Nature?
Alors historiquement, c'est une association qui a été créée en 1981. Elle avait comme vocation de parler de nature dans le département de l'Oise, mais on a quand même un centre d'intérêt qui est la forêt de Compiègne et ses alentours. Hein. La forêt de Compiègne, c'est la forêt de l'Aigle aussi, la forêt d'Ourscan. Et puis, si on peut être un peu plus général, bien qu'on ne s'occupe pas de cette forêt-là, mais on est très proche aussi de la forêt de Retz, hein, qui est séparée des fois de la forêt de Compiègne de moins d'un kilomètre et demi. Donc, on peut dire qu'on est dans un énorme continuum, la forestier, qui a évidemment un intérêt très, très important en termes de biodiversité, en termes de biodiversité et autres. Donc, on s'est intéressé à ces forêts. Dans un premier temps au niveau de la faune, et puis en fait on s'est aperçu très vite que la forêt c'était pas uniquement la faune, c'était aussi des arbres, et voilà, on a élargi, j'allais dire, notre champ de vision, hein. Voilà, vers la forêt et vers les arbres. Voilà.
Depuis 80, j'imagine que le territoire a un peu changé, le climat a changé, la protection de la forêt a changé, peut-être que aussi la vision du public a changé. Qu'est-ce qui a changé pour Oise Nature depuis 80?
Moi, je pense que ce qui a beaucoup changé, effectivement, c'est l'aspect général de la forêt, hein, et puis aussi peut-être une meilleure prise de conscience. Même si pour les Compiègnois, la forêt, ça fait quand même partie du cadre de vie. Donc je pense que tous les Compiègnois et les habitants de l'agglomération au sens large vont profiter de la forêt en permanence. Donc cette vision a changé et il y a une plus grande prise de conscience qui s'accélère encore plus aujourd'hui quand on voit l'évolution des climats et quand on voit les conséquences de l'évolution du climat sur nos forêts. C'est ce qui est le plus visible actuellement pour nous. Alors il faut avoir un œil un peu curieux, c'est-à-dire qu'il faut essayer de lever les yeux et d'observer les houppiers, c'est-à-dire les parties hautes des arbres. Et là, on s'aperçoit effectivement que là, la forêt est en train de souffrir. Donc ça, c'est vraiment depuis 81 jusqu'à aujourd'hui, on a vu l'évolution se faire petit à petit. On a vu ce changement se mettre en place avec aujourd'hui un changement qui est hors norme, on va dire. Hein. C'est comme l'épidémie de Covid qu'on est en train de traverser, c'est hors norme. Donc il faut vraiment être très attentif à ça.
Également des changements dans l'utilisation de la forêt, c'est-à-dire entre ses utilisateurs. Là, on parle beaucoup de la chasse à cour, également de la sylviculture, là, la récolte des arbres avec des grandes coupes rases, des maladies, le prunus irutina, les insectes, etc. Tout ça, c'est conjoncturel et tout ça arrive à un instant T ou c'est arrivé progressivement
C'est arrivé progressivement, évidemment, et puis c'est amplifié par le changement climatique également, hein, qui joue son rôle actuellement. Et alors on a vu effectivement des coupes rases. Ça a été d'ailleurs une guerre en forêt de Compiègne dans les années 70 avec d'autres associations que la nôtre d'ailleurs, où les gens se sont un petit peu redressés, enfin ont combattu ces coupes rases parce que ça ne paraissait pas être une solution.
Donc il y a 50 ans, il y avait déjà des coupes à blanc.
Oui, ben bien sûr, okay. Il y avait déjà des coupes à blanc. Ça s'est calmé, puis c'est revenu. Alors aujourd'hui, on en voit moins, et celles que l'on voit sont surtout des coupes à blanc qui sont liées à des problèmes sanitaires, notamment sur ce qui s'est passé sur les scolytes avec les épicéas. Donc on voit ces grandes coupes à blanc parce que malheureusement, lorsque les arbres sont morts et qu'on avait fait une monoculture d'épicéas sur plusieurs hectares, bien on est obligé de récolter tout d'un coup. Donc on récolte tout d'un coup et on se retrouve devant une grande zone qui n'est plus qui est vide, quoi, en fait.
Ouais, c'est ce qui se passe en forêt de l'Aigle, par exemple.
Alors c'est ce qui s'est passé en forêt de l'Aigle du côté du Puy d'Orléans. C'est ce qui se passe en forêt de Compiègne autour du Carrefour du Dragon, enfin différents endroits où on a vu apparaître ces grandes coupes à blanc. Ça pose un vrai problème parce que la coupe à blanc, elle est difficile à régénérer parce qu'il va falloir replanter, évidemment, parce que comme son nom l'indique, elle est à blanc. Et on a les effets du climat. Donc aujourd'hui, on voit que l'ONF, évidemment, ils sont sensibilisés à ça. On va pas, tout le monde est bien au chevet de la forêt. Mais on s'aperçoit que les solutions, tout le monde tâtonne. Et puis, alors ce que nous prônons à Oise Nature, c'est d'essayer de faire des mélanges d'essences, puisque ça a été écrit par les forestiers, même Panelier, à l'époque de Louis XV, faisait des mélanges d'essences en forêt de Compiègne. Les Marceau ont dit la même chose, surtout en forêt de Compiègne, il faut mélanger les essences. Donc, je crois que l'ONF doit aller dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que pendant un moment, ils ont fait simplement de la monoculture, parce que les arbres poussaient bien et que finalement, ça allait bien, quoi. Hein.
Aujourd'hui, c'est facile à récolter, en plus.
Voilà, la monoculture, c'est facile, on plante et on a quasiment... coche quasiment la croix sur le calendrier le jour où on va pouvoir, en théorie, les récolter. Sauf que là, ça ne marche plus. Je crois que tout le monde en est conscient, même les forestiers. Et puis, on voit dans les assises de la forêt qui viennent d'avoir lieu, on voit très nettement une orientation vers beaucoup plus de mélange d'essences qui sera finalement probablement la solution pour rendre les forêts résilientes à cause justement de ce changement climatique.
Et également des essences plus méridionales, c'est ça, plus méditerranéennes.
Alors actuellement, c'est effectivement une stratégie qui est actuellement à l'essai. Donc on amène des essences de hêtres, c'est pas des hêtres, mais on amène des essences qui ont poussé au-delà de la Loire pour les ramener vers nos forêts, en espérant que, comme elles sont déjà habituées à des chaleurs élevées, elles vont s'acclimater ici. Ça sera quasiment une obligation, dans la mesure où si on laissait les essences remonter naturellement, ce qu'elles vont faire, hein, mais elles vont mettre trop de temps pour remonter, c'est-à-dire qu'il y a un déphasage très fort entre le changement climatique et la vitesse à laquelle ils vont remonter, donc il faut jouer cette chose-là. En faisant quand même très attention de ne pas faire entrer le loup dans la bergerie, en ayant des essences qui pourraient jouer le rôle, entre guillemets, malheureusement, du Prunus serotina et devenir envahissante ou d'être sensible à des maladies. Enfin bref, il y a tout un ensemble de... Il y a beaucoup, beaucoup de questions et des réponses multiples et c'est compliqué.
Ouais, parce que là, quand il y a une coupe rase, il y a également les sols qui sont dévastés. Le sol est mélangé et puis ça laisse la place donc au Prunus serotina et également, comme c'est sablonneux, ça permet à ce que les petits insectes puissent venir.
Exactement. La coupe rase, si on est dans un secteur où il y a le Prunus serotina, il va, j'avais pas précipité là-dedans, mais il va grandir. C'est une essence opportuniste qui adore la lumière. Donc, elle va partir à toute vitesse. Et le problème du Prunus serotina, c'est que lorsqu'il est à l'état buissonnant, il empêche toute régénération des essences, j'allais dire, plus nobles, c'est-à-dire celles auxquelles nous sommes habitués en forêt de Compiègne, le chêne, le hêtre, et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis le hanneton, évidemment, qui adore les grands découverts, là, qui arrivent comme un seul homme.
J'ai l'impression que l'ONF est un peu en retard par rapport à l'évolution, est-ce que c'est le côté un peu étatique, le côté bureaucratique, ou est-ce que d'un point de vue Oise Nature, non, ils sont finalement dans leur rôle, sans vous mettre en retard avec l'ONF.
Non,
mais on a toujours l'impression qu'ils ont un train de retard, en fait, sur leur prise de décision.
Alors, je pense qu'effectivement, le fait que ce soit un établissement public à caractère industriel et commercial...
Bon, c'est qu'il faut faire de l'argent aussi.
Alors, ouais. Bon, il y a ça, mais il y a aussi... Enfin, faire de l'argent, en tout cas, il faut... Ils ont un mode de financement qui fait qu'ils se financent beaucoup sur la vente du bois, qui est quasiment leur seule source de revenus, avec, à côté, la ressource de la chasse, en fait. Donc, évidemment, on comprend bien. Ceci dit, je pense que c'est plus dans le... dans la vitesse de réaction, puisqu'on est dans des pas administratifs, quoi, j'allais dire, c'est beaucoup plus long, c'est ce que je ressens, moi, c'est beaucoup plus long à prendre les décisions. Alors, les gens de terrain, eux, qui sont les mains dans le goudron, j'allais dire, qui sont au charbon, eux voient les modifications, ils les voient très nettement, sûrement bien avant que l'information arrive au niveau de la hiérarchie et qu'elle redescende sous forme
de rapports,
et puis de ceci et de cela. Donc, il y a un déphasage. Donc, c'est plus dans cette direction-là qu'il faut aller. Parce que moi, je me souviens, au début de Oise Nature, on a eu des réunions avec le responsable de l'unité territoriale en disant « Mais monsieur, là, ici, vous avez planté du chêne, ça ne pousse pas, comment ça se fait, ceci, cela ?» Eh bien, avant que les choses avancent, ben, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils le disent assez facilement, hein, 50% de la régénération ne pousse pas. Hein, c'était un vrai problème.
Une chose nouvelle également, qui est un peu, enfin une chose nouvelle, pas vraiment si nouvelle, mais surtout qui prend de l'ampleur, c'est le bois énergie. On entend beaucoup de parler du bois énergie. Alors, comme quoi, c'est, bah, évidemment, le bois, c'est une ressource renouvelable. Mais si tout le monde se met au bois, il y aura plus de demandes de bois, moins de boîtes disponibles, augmentation des coûts. On l'a vu à Compiègne, notamment avec la chaudière biomasse. Vous en pensez quoi chez Oise Nature de cette.
Alors, le bois énergie. Bon, effectivement, c'est une utilisation du bois. Hein. On a toujours utilisé du bois pour
construire,
se chauffer. Ma grand-mère habitait la Croix-Saint-Ouen, se chauffait au bois. Hein. On allait chercher le bois en forêt. Et voilà, c'était comme ça, on pensait tout. Et puis, bon, c'est très bien. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'adapter la taille des chaudières à la ressource disponible. Il ne faudrait pas qu'on en soit à raser du bois pour faire... Ce n'est pas ça, l'utilisation du bois. Hein. L'utilisation du bois, il y a une hiérarchie dans l'utilisation du bois. On doit d'abord fabriquer du bois d'œuvre, ce bois qui va servir à faire les charpentes, à faire... où on va stocker du carbone pendant très longtemps. Et puis ensuite, on peut faire éventuellement des bois reconstruits comme
le bois aggloméré
qu'on utilise dans le bâtiment. Et puis seulement, après tout ça, on va dire tous les résidus, on peut les brûler. Mais il ne faudrait pas que le bois énergie, on inverse la chose et que l'on fasse...
Directement du bois énergie.
Voilà.
Hein, c'est ce que l'on voit un petit peu quand on voit les parcelles qui sont coupées, on voit des énormes tonnages de bois le long des routes qui ensuite sont broyés avec de l'énergie fossile puisqu'on utilise du gasoil pour les broyeuses. En fait, on a l'impression que c'est un cycle qui se mord un peu la queue.
Oui, on a vu... Moi, j'ai été surpris une fois en discutant avec un transporteur routier qui était en train de charger son camion et qui m'a expliqué qu'il emmenait du bois de la forêt de Compiègne pour être brûlé à Rambouillet. Ce qui, quand on met ça, quand on se le dit...
Il y a une forêt à Rambouillet et puis...
Ouais, c'est la question que je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens. Il m'a dit, je suis assez d'accord avec vous, ça n'a pas de sens. Mais il a quand même pris son camion, il a traversé toute l'île de France pour aller faire brûler son bois à Rambouillet. Bon, c'est des marchés, je pense qu'ils ont des choses comme ça, mais ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc il faut vraiment privilégier un usage, une hiérarchie de l'utilisation du bois. Le bois, quand même, il faut savoir que les forêts françaises... Métropolitaine capte entre 15 et 20% du CO2 que l'on produit chaque année. Il faut faire en sorte que le CO2 qui est dans ce bois reste dans le bois le plus longtemps possible. Et si on prend l'exemple de la charpente de Notre-Dame, le CO2 qui était dans ce bois-là, il est resté plusieurs siècles.
Bien sûr.
Donc c'est très bien.
Justement, là, le bois aujourd'hui, il est récolté, il est envoyé parfois en Chine, parfois à l'étranger, pour nous revenir en parquet, en meubles. On a vu que c'est un peu l'offre et de la demande, c'est que les scieries françaises avaient un peu du mal à s'approvisionner. Est-ce que vous avez justement, vous, des propositions, une vision à Oise Nature sur cette offre d'offres et de marché? Est-ce qu'il faudrait faire du protectionnisme pour le bois français? Est-ce qu'il faudrait pouvoir allouer des quotas de bois aux scieries françaises?
Alors, moi, je pense que on fait toujours mieux d'un point de vue écologique, en transformant le bois au plus près des endroits où on le produit. Ça me paraît essentiel. Donc, je pense que il faut la filière bois, c'est-à-dire qui va depuis le gars qui vend des plants en pépinière jusqu'au gars qui fabrique des meubles, eh bien, on doit restructurer cette filière-là pour que les scieries en France puissent travailler correctement. Il n'y a rien de plus triste que de voir une scierie qui a travaillé des chaînes pour Notre-Dame, qui va être obligée de fermer derrière parce qu'elle n'a plus suffisamment de bois. Donc, les Chinois, on les a vus, il y a eu des reportages dernièrement à la télévision où on nous a montré que les Chinois étaient capables de surenchérir pour aller chercher du bois français pour le renvoyer. Après, on voit, après, sur les qualités de bois, on nous dit que c'est peut-être pas les meilleurs bois qui partent en Chine et que voilà, bon. Mais il faut peut-être restructurer la filière pour que le maximum de bois soit transformé en France et en Europe, j'allais dire, puisqu'on est européen, donc en Europe. Et puis aussi peut-être obliger. Il n'y a rien de plus triste aussi de voir une grume monter dans un container. Eh bien, il faudrait qu'au moins la première transformation soit faite ici, c'est-à-dire qu'on ne vende pas des grumes. Je crois qu'on fait partie des derniers pays à vendre des grumes entières. Même en Afrique, on demande une première transformation, c'est-à-dire simplement de vendre des planches. Mmh. Hein. Et on pourrait très bien, je vais être vicieux, mais on pourrait très bien dire que d'un point de vue écologique, c'est mieux, dans la mesure où on risque moins d'envoyer des insectes de nos pays vers l'Asie et ainsi de suite. En Chine, ils sont très attentifs à ça, donc on pourrait très bien vendre ça. Mais l'idéal, quand même, c'est d'essayer de restructurer notre filière bois. Moi, je suis toute ma famille originaire de la Croix-Saint-Ouen. Les plus anciens se souviennent qu'à la Croix-Saint-Ouen, il y avait des scieries, il y avait des choses comme ça. Et on sortait le bois de la forêt de Compiègne et on l'emmenait à la scierie chez Monsieur Lécurus, chez Monsieur Bigène, et on transformait le bois sur place. C'est vers des solutions comme ça qu'il faut revenir.
En tout cas, les Chinois l'ont compris. Ils ont protégé leur forêt. Ils coupent pas leurs arbres. Ils vont acheter pour l'instant les arbres ailleurs, quoi.
Oui, absolument. Ils l'ont compris. Et puis on peut se dire aussi. Ils jouent sur les deux tableaux, c'est-à-dire que quand ils auront bien amoché nos scieries ici, on ne sera plus capable de transformer nos bois ici, ils se lèveront le doigt en disant mais nous on est capable de faire, hein, et ils sont déjà d'ailleurs. Voilà. Les Chinois sont les premiers producteurs de meubles au monde. Hein, donc ils sont premiers dans beaucoup de domaines, mais là aussi ils sont premiers.
On va rester dans le thème de la forêt. J'ai choisi des morceaux en thème avec la forêt, donc dans notre programmation on en a quelques-uns, et on va commencer avec Marie la forêt avec le titre Marie douceur, qui a une reprise, vous allez voir. On se retrouve juste après.
C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les temps. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie Colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, aime bien chanter des ballades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prendrait. Crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère est maintenant là devant toi. Marie Douceur n'est plus qu'un souvenir déjà.
Marie Laforêt, on reste dans le thème de la forêt pour parler de cette projection du film qui aura lieu dimanche. Le Chêne et ses habitants, c'est au Majestic, c'est à 16h, c'est un peu une avant-première puisque ça sort le 16 février, il me semble. On est toujours en compagnie du président, du vice-président, pardon, de Oise Nature pour parler donc un peu de Oise Nature, mais également du film. On aura également une interview du réalisateur du film tout à l'heure. Et donc Marie Laforêt avec ce titre Marie Douceur, vous avez sûrement reconnu une reprise des Rolling Stones un peu étrange, hein, c'est Paint in Black à la base. Donc voilà, on revient un peu pour parler de cette forêt. Il y aura un autre titre après, encore en rapport avec la forêt. On parle des actions de Oise Nature. On a parlé donc de la gestion de la forêt, de la gestion des arbres, etc. Aujourd'hui également, on entend beaucoup parler de la chasse en forêt. Il y a quelques semaines, il y a eu un problème de chasse à cours avec une histoire de tir. Vous participez, il y a eu une espèce comité d'éthique, c'est ça un petit peu, comment ça s'appelle où il y a eu où on a fait venir les chasseurs pour en gros qui sont un peu jugés par leur père par
rapport à ça. Vous parlez de la commission départementale de la chasse et de la faune.
Absolument.
Un tribunal, c'est pas une chose comme ça. C'est une commission qui se réunit plusieurs fois dans l'année et qui a à traiter de la gestion de la faune, on va dire. Et à l'intérieur de la gestion de la faune, il y a évidemment la chasse et il y a notamment un outil administratif qui s'appelle le plan de chasse. Ce plan de chasse, c'est un outil qui est utilisé pour définir un nombre
d'animaux
minimal et un nombre maximal de grands animaux à prélever. Donc ça s'applique pour le chevreuil, le cerf et l'espèce sanglier.
Donc vous utilisez le terme
précis. Et puis aussi pour d'autres espèces, mais ça ne rentre pas dans le cadre du plan de chasse. Mais par exemple, on sait par exemple pour les lièvres et ainsi de suite, il y a aussi des contraintes et des obligations.
Vous utilisez le terme prélevé, vous aussi ? Vous êtes parti sur le terme néologisme de tuer. En fait, non, pour rendre ça un peu moins violent, souvent on dit prélevé. Enfin, les chasseurs utilisent le terme prélevé. Mais en vrai, c'est tuer les animaux.
C'est tuer les animaux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est prélevé. En fait, je crois qu'il faut, sur la chasse, il faut dire des choses. Il faut bien comprendre des choses. Aujourd'hui, dans nos forêts, il n'y a plus de prédateurs naturels. Alors, peut-être que le loup va revenir, on le voit passer de temps en temps. Ici, c'est
traverse
le loup,
forêts.
Il traverse nos forêts. On l'a vu dernièrement, il est dans la Somme, il est en Seine-Maritime. Donc, il y a eu un passage dans le Beauvaisis il y a quelques temps. Donc, on sait qu'il passe. Mais bon, pour qu'il y ait une gestion de la faune et une action utile sur la gestion, le prélèvement et la prédation, il faudrait qu'il y ait une meute. Et on ne sait pas si la surface est suffisante, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour parler de cette problématique-là. Hein. Bon. Donc, ça veut dire qu'en l'absence de prédateurs naturels, il faut évidemment réguler les populations, il faut prélever un certain nombre d'animaux. Alors après, la discussion, elle se situe à l'endroit où on met le curseur. Pour les forestiers et pour les agriculteurs, il y en a toujours de trop. Parce que on voit très bien, ça fait des jeunes plants, ça rentre dans les champs, ça rentre ceci. Et puis pour les amoureux du cerf, il y en a toujours trop de prélevés. Et puis le chasseur, lui, par définition, il faut qu'il y ait du gibier, sinon il n'y a plus de chasse. Donc là aussi, il faut essayer de ménager la chèvre et le chou. Alors bon, voilà. Dans nos forêts, on chasse à court. La forêt de Compiègne, rappelons-le, elle existe parce qu'on chasse à court depuis la nuit des temps. Hein, donc elle existe et les forêts, j'allais dire, autour de Paris, modelées, aménagées pour l'exercice de la chasse à cours. Bon voilà, aujourd'hui ça permet d'ailleurs aux forestiers d'en profiter parce qu'elles sont faciles d'accès, donc on peut aller chercher le bois quasiment partout. Mais voilà, donc il faut vraiment expliquer ça aux gens. Alors évidemment, quand on dit il faut réguler, ça veut dire qu'il faut tuer des animaux. Voilà. Donc
là, on parle pour les grands animaux, mais par exemple, les sangliers ont été réintroduits par les chasseurs, sont nourris par les chasseurs.
Alors, les sangliers sont effectivement. J'ai connu une période où, quand on voyait un sanglier en forêt de Compiègne, on allait quasi tout le monde criait « Ah, on a vu un sanglier !» Aujourd'hui, il y a des sangliers partout en forêt. Donc là, après, c'est un problème de gestion. Est-ce qu'il est est-ce qu'on doit continuer de les agréner comme on le voit? Est-ce qu'on doit ceci? Est-ce qu'on doit cela? C'est une grande question qu'il faudra un moment, un autre trancher. Nous, on n'est pas partisans à une artificialisation trop importante du milieu. Donc, nourrir les animaux quand il y a des glands partout et retrouver des glands qui font 3 cm de long au milieu de grains de maïs, je me dis qu'il y a quand même un non-sens. Le sanglier devrait préférentiellement manger les glands, même si ça, plutôt que du maïs, ils n'ont pas besoin de ça, quoi, en fait. Donc, ça a quand même un effet sur la faune, c'est-à-dire que ça la rend plus prolifique, et on se retrouve avec des sangliers qui se baladent dans les rues de Montmorency, dans le Val d'Oise, qu'on voit débarquer notamment dans le Var, dans les stations balnéaires, des sangliers sur la plage, quoi. Ça, il y a un illogisme total, là, hein. Donc il faut remettre un peu l'église au milieu du village, quoi.
L'humain aussi empiète de plus en plus sur les forêts, on construit de plus en plus proche des forêts.
Absolument, donc on crée des zones de tension où les animaux vivent. On est une pièce rapportée dans la forêt, hein. Moi, j'habite dans un petit village de la forêt. Il y a en permanence des cerfs et des biches dans mon jardin. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Moi, je suis très content de les voir. Ils mangent un peu de mes salades, et puis les arbres que je plante, je suis obligé de les protéger, mais voilà, quoi. Donc,
Pas d'indemnité.
Moi, je ne demande pas de dégâts de gibier.
Là, comment ça s'est passé, cette commission départementale de la chasse et de la faune sauvage? C'est vous qui avez participé, c'est votre frère?
Non, c'est mon frère qui a participé. Donc, écoutez, chacun expose les choses. C'est sous la présidence de Madame la préfète. Donc, c'est elle qui gère les débats. Dans le cas présent, il y avait aussi une pression venant du ministère,
c'était une demande du ministère.
Il y avait une demande du ministère pour sanctionner l'équipage. Bon, il y a eu une méga erreur qui a été faite. Bon, c'est tout. Voilà. Donc, à un moment, il fallait sanctionner et la sanction est tombée. Après, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle n'est pas suffisante? Il y a eu sanction, donc c'était l'important.
Il y a eu sanction, mais sur les 25 membres, il y a 8 chasseurs, 2 piégeurs, 3 exploitants forestiers, dont des gens qui sont proches des chasseurs, 4 exploitants agricoles qui doivent négocier les compensations financières, 4 représentants de la préfecture et 2 associations, dont l'Oise Nature, 2 scientifiques. Et votre frère a dit, dans la presse, on n'a plus longtemps dans le Parisien, a dit que la chasse à cour était une chasse traditionnelle, qu'il fallait un peu la préserver. Alors, c'est aussi votre ressenti ou
alors,
moi, le ressenti de l'association?
Le ressenti de l'association, c'est que, encore une fois, la chasse à cour est pratiquée dans nos forêts depuis la nuit des temps. Elle n'a jamais mis en danger les populations de cervidés, hein, parce qu'on ne s'attaque qu'aux cerfs. Et on sait très bien que la reproduction, ça se fait par les biches. Et quand on veut réduire un nombre d'animaux dans une forêt, on augmente l'prélèvement de biches, pas de cerfs.
Sur les mers.
Voilà, donc on tue des mers. Voilà. Donc voilà. Alors après, la chasse à cour, son gros problème, c'est qu'elle théâtralise, elle met en exergue la mort d'un animal à laquelle tout le monde peut assister. Et ça, dans notre société, c'est quelque chose que les gens ne veulent plus voir. Personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la barquette du steak qu'on achète chez Carrefour ou dans un...
Souvent, quand on met du jambon, on met un petit jambon mignon, voilà, un petit bonhomme mignon tout rose.
Voilà, exactement. Et puis voilà. Mais personne ne se pose la question de savoir qu'à un moment, cet animal, il a été élevé par un agriculteur, qu'il a été emmené à l'abattoir, qu'il a été abattu et qu'il a été transformé.
Il y a quand même une prise en compte, une augmentation de plus en plus de personnes qui ne mangent pas de viande. Il y a une augmentation
C'est sûr. Il y a une sensibilisation qui se fait, une sensibilité. C'est vrai que ce n'est pas bon pour la santé de manger trop de viande. Hein, et très honnêtement, personne n'est pour maltraiter la faune. Hein, donc, on est tous à regretter ce que l'on voit de temps en temps dans des images d'abattoirs où il y a des choses qui sont quand même pas très normales qui se produisent. Ça, il faut être très, très clair. Mais voilà.
Ouais, on l'a vu sur les abattoirs et on l'a vu là sur les personnes âgées, sur les EHPAD. Donc
voilà, je vais pas faire le parallèle,
mais traite les animaux à l'image de nos humains.
Ouais, non, mais bien sûr. Donc voilà.
Bon, il y a 3 jours, mercredi, il y a encore une vidéo qui est sortie sur la chasse à cour où on voit un cerf qui saute dans un étang et en fait ils veulent le tuer avec un fusil et il loupe la cible 2 fois, dont le cerf a la mâchoire arrachée et ils le finissent à coups de dague dans le lieu. Donc je pense que les chasseurs sont les meilleurs défenseurs défendeurs de leur propre...
Non, mais je pense qu'ils ont la responsabilité d'agir avec, avec mesure, quoi, en fait. Hein. Donc, vous savez, de tout temps, il y a quelques cartes postales anciennes qui circulent de Vénerie, où on voit un cerf qui est avec des chiens devant le château de Pierrefonds. Le château de Compiègne, on a des photos d'un cerf qui est aux abois dans la gare de Chantilly. On a des photos d'un cerf qui est aux abois sur le toit d'une maison à Aramon. Ça s'est toujours passé comme ça. Je me souviens d'une photo d'un cerf aussi qui est aux abois sur le balcon d'une maison à Lyons-la-Forêt. Il est là avec tous les chiens sur le balcon de la maison. Donc ça s'est toujours passé comme ça, voilà. Donc c'est des choses qui aujourd'hui évidemment choquent beaucoup parce que c'est plus dans notre
mentalité, dans la
mentalité. Et ça s'est fait très vite. Hein, moi j'ai des personnes du village où j'habite qui me disaient dans les années 60, quand le cerf rentrait dans le village à la chasse à cour, le maître d'école était prié d'arrêter la classe parce que les enfants devaient aller à la curée et tout ça. Aujourd'hui, c'est un article dans la presse locale. Et puis,
On a fait la même chose pour l'esclavage, où à l'époque, c'était normal d'avoir des esclaves. On l'a fait la même chose pour le droit des femmes, etc. L'évolution des sociétés évolue. Et
absolument,
peut-être que dans 10 ans, ça nous semblera plus normal de voir des animaux se faire pourchasser par des chiens, suivis par des voitures.
Encore faut-il que... Faut peut-être ramener ça aussi, hein, Il faut quand même donner quelques chiffres, par exemple, sur la chasse à cour. Il y a quand même énormément de fausses, de fake news, comme on dit, qui sont véhiculées, notamment des choses assez simplistes de dire le cerf n'a aucune chance. Ben, c'est absolument faux, puisqu'on sait qu'un équipage de chasse à cour, arrive à ses fins une fois sur quatre seulement. C'est-à-dire que ce qui veut dire que trois fois sur quatre, le cerf se sauve. Et là, on peut se poser la question de savoir, malgré les forces en présence, c'est-à-dire les chiens, les cavaliers, les vélos, les voitures et tout ça, comment fait-il ? C'est-à-dire qu'il est plus malin que tout le monde.
Il a peur. C'est aussi l'instinct de survie.
Mais l'instinct de survie, c'est lui qui lui permet de mettre en place toutes les ruses que la nature l'a doté d'un certain nombre de ruses, qu'il met en place. Il met en place la même chose devant les loups. Et puis, il réussit à retourner, à s'en sortir. Quoi. Il y a un très, très bon livre que je conseille. C'est L'homme, l'animal et la mort, qui vient d'avoir le prix François Semer, qui traite de toutes ces questions de chasse et d'éthique animale, qui est un livre qui a été fait par un ethnologue, qui est vraiment très, très, très bien écrit. Il prend pas parti. Il parle, il interviewe des anti-chasses à court, donc des Hava par exemple, et il interviewe des chasseurs. Et c'est vraiment un livre qui permet d'être très éclairant. Et tous les anti-chasses et tous les chasseurs devraient le lire. Et la population qui s'intéresse à la forêt devrait le lire parce que c'est vraiment un excellent ouvrage qui remet un peu là aussi l'église au milieu du village. Quoi.
Là, je crois qu'il y a un très gros plan qui a été mis en place par l'ONF. Enfin, il y a un plan sur la forêt, c'est ça ? Vous avez participé également ?
C'est très important. Il y a quelque chose qui a été mis en place et nous sommes heureux de ça. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre les élus et l'Office national des forêts. Les élus, ce sont toutes les communes de alors, il y a l'Arc, mais il y a aussi les plaines d'Estrée, il y a aussi...
Lisière de l'Oise,
et ainsi de suite.
Tous ceux qui sont autour de la forêt.
Voilà. Et le but, c'est d'essayer de réfléchir, justement, alors que la forêt est en grande difficulté, d'essayer de trouver un modus vivendi et peut-être des stratégies pour essayer d'apporter des solutions. Alors, on n'en est pas à ce qui a été fait en forêt de Chantilly, avec Sauvons la forêt de Chantilly, mais là aussi, on a un peu parlé de ça tout à l'heure, l'ONF est propriétaire ici, enfin pas propriétaire, est gestionnaire d'une forêt d'État. À Chantilly, la forêt appartient à l'Institut, et l'Institut a été beaucoup plus rapide et a mis le focus.
C'est l'Institut qui gère également le château de Chantilly, c'est ça ?
Voilà, l'Institut de France, qui est propriétaire de la forêt et donc qui est propriétaire. Donc lui, eux, ils ont pu mettre en action des choses beaucoup plus rapides. C'est-à-dire on n'en est pas encore là à Compiègne, mais on pourrait tout à fait s'en inspirer et aller dans cette direction-là. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se mette en place entre les élus et l'administration, les eaux et forêts. il faut que les élus s'accaparent cette chose-là, parce que c'est eux qui ont les moyens d'agir et de...
Ouais, qui ont le levier d'action. Et,
voilà. Nous, en tant que petite association d'une centaine de membres, évidemment, on ne représente pas grand-chose, quoi, mais eux, ils ont la possibilité. Et nous, on a, c'était vraiment une volonté de notre part, et ça va dans le bon sens. Maintenant, à voir ce qu'ils vont sortir. C'est la période, ça se fait sur 6 mois, c'est pas énorme, enfin bref. Et on traite de sujets comme comment gérer la forêt tout en respectant la biodiversité. C'est des sujets qui sont énormes et que l'on peut pas traiter en trois quarts d'heure sur le coin d'une table, quoi.
Quels sont les autres dossiers en cours pour Oise Nature? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place en ce moment ou peut-être dans l'avenir?
Alors, bon, on va mettre en place des actions d'informations sur la forêt, donc de faire des sorties nature, de faire des choses comme ça, beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ça fait partie des choses importantes. Et puis, on a des projets aussi, peut-être, de réflexion, justement, sur ce que l'on peut apporter, justement, en termes de support pour régénérer cette forêt. Donc, voilà, il y a une réflexion qui se fait dans cette direction-là, que c'est important de le souligner.
Là, pour la projection du film Le Chêne et ses habitants, c'est vous qui avez fait la demande, c'est le Majestic qui vous a contacté ?
C'est le Majestic qui nous a contacté, hein, on l'a fait déjà à plusieurs reprises, on a fait Le Temps des forêts, on a fait les deux films sur les arbres remarquables, et là, évidemment, Le Chêne, ben, ça allait, j'allais dire, c'est dans la même veine, si je peux dire, et voilà, le Majestic nous a demandé si on pouvait être support de l'avant-première qui aura lieu donc dimanche après-midi à 16h.
On parlera tout à l'heure peut-être du chêne, d'un des chênes de Compiègne. Je crois que c'est le chêne de Saint-Jean qui a été annoncé mort par l'ONF. Celui qui est proche, c'est pas celui-ci ?
Ah non, celui qui est mort, c'est celui du Mont-Saint-Pierre. Voilà, il est mort l'année dernière, si je puis dire. Alors, je pense qu'il était plus vieux que celui qu'on va voir dans le film. Hein, mais bon, il a subi lui aussi sûrement les effets du changement climatique. Et il a séché assez rapidement.
Est-ce que c'est un arbre qu'il faut préserver pour vous ? On le verra dans le film et puis les auditeurs le verront peut-être dans le film. Mais c'est vrai qu'un chêne, pour nous, c'est juste un arbre. Mais en fait, il y a toute une vie au-dessus, en dessous, à côté, autour. Donc, un arbre vivant ou un arbre mort, c'est quand même un habitat pour des animaux.
Exactement. Je pense que le résumé, il est parfait. Un arbre mort a au moins autant d'intérêt qu'un arbre vivant, puisqu'il abrite un certain nombre d'espèces. On le voit dans le film, hein. On voit des écureuils, on voit évidemment il y a des cavités dans lesquelles on va trouver des pics, puis dans d'autres cavités, on va trouver là des chiroptères, donc des chauves-souris, on va trouver des insectes. Bref, il y a toute une vie autour d'un arbre qui est très importante, et plus l'arbre vieillit, plus il fait tomber du bois, plus il y a de cavités qui se mettent en place. Et donc, ces arbres à cavités, ce sont des arbres qui, d'un point de vue biodiversité, sont essentiels. Et il y a 25% de la biodiversité de nos forêts qui est inféodée à ces vieux arbres. Donc, il faut les maintenir. Il faut surtout ne pas aller trop vite dans la récolte de ces arbres-là. Même s'ils peuvent encore avoir une petite valeur marchande, eh bien, il faut savoir sacrifier ça, parce que tout ce que l'on voit dans l'arbre, toutes les espèces qui y vivent, eh bien, ce sont objectivement des alliés du forestier. Donc, il faut absolument les maintenir.
On retourne faire une courte pause musicale avec cette fois l'Escope et le titre La Forêt. Cette fois, c'est moi qui joue.
par chance. Pour moi maintenant c'est fini. Et tout le monde s'en fout, tu penses. Te voilà maintenant qui t'enfuis, tirant ta révérence. La forêt de nouveau frémit. Je profite du silence. Dans la forêt je te retrouve à l'heure opportune.
L'Escope avec le titre La Forêt. On est toujours en compagnie de Didier Caron, vice-président de l'association Oise Nature. On parle de cette projection de film qui aura lieu ce dimanche. C'est à 16h, ça s'appelle Le Chêne et ses habitants. On va écouter un extrait de la bande-annonce de ce film qui sera diffusé donc au Majestic. Et juste après, on écoute l'interview de Michel Sédoux qui est le co-réalisateur du film, qui a été réalisé avec une star un petit peu du reportage animalier, enfin du film animalier. C'est Laurent Charbonnier. On écoute tout de suite l'interview.
When marimba rhythm start to play, dance with me.
Michel Sédoux, bonjour. Vous êtes le producteur, auteur et co-réalisateur du film. Comment s'est passée un peu la jeunesse du film? Comment s'est passée la rencontre avec Laurent Charbonnier?
Formidable, parce que quand deux amoureux de la nature se rencontrent, ils parlent tout de suite de la nature. En fait, Laurent avait un projet en gestation depuis très longtemps, et puis il cherchait un moyen de le faire avancer. Donc, c'était un projet autour d'un arbre. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à travailler, et puis on a beaucoup travaillé, puisque 5 ans après, est sorti un film. Voilà, c'est tout. Donc c'est une belle aventure humaine en plus, oui.
Comment on vous pitch l'histoire de ce film? Comment on vous dit, je vais faire un film sur un arbre et ses habitants? C'est quoi votre première réaction?
Moi, je suis un homme qui raconte des histoires et qui aime les histoires. Je pense que le cinéma est un endroit où il faut raconter une histoire. Donc faire un documentaire qui aimait de mettre des belles images bout à bout, à mon avis, n'était pas la solution que je préconisais. Donc on a commencé par écrire un scénario. Mais avant d'écrire un scénario, il faut faire le casting. Donc on a choisi un certain nombre d'acteurs qui nous plaisaient parce qu'ils avaient des visions différentes et des habitats différents autour de notre arbre, de l'insecte en passant par le sous-sol avec les mulots ou l'aérien avec les jets. Sans oublier, bien entendu, un peu le grand patron de l'arbre, l'écureuil. Donc tout ça, c'était très important. Donc on a d'abord choisi le casting, après on a écrit l'histoire. Et puis pour qu'on soit tous bien synchronisés, on a fait ce qu'on appelle un storyboard. Près de 600 dessins qui ont été faits pour que toutes les équipes aient la même compréhension du film.
Quand on joue avec des acteurs, c'est facile, il suffit de les diriger. Mais là, avec des animaux, comment s'est passée du coup la réalisation des plans? Parce qu'il y a des images assez magnifiques. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'effets spéciaux, notamment pour la partie souterraine. Mais comment ça s'est passé avec, par exemple, le guet ou ce genre de choses?
Du temps. Je vais vous répondre. C'est un tournage très 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 long, hein, puisque on a passé un peu plus d'un an, presque 14 mois à capter des images. Il y a eu 350 heures d'images captées. Donc puis après, il y a un travail de montage. Voilà, grosso modo, parce que la vraie réponse, c'est le temps. Et le temps, la patience, et puis de travailler avec des animaux qui étaient plus ou moins, on arrivait plus ou moins de proximité. Voilà, c'est un vrai travail de longue haleine et d'observation.
Comment s'est passée la suite pour le montage? Ensuite, c'est là 50 tournages, mais c'est combien de temps pour arriver à...
Non, pas 50 tournages. Non, 5 ans, l'histoire est à 5 ans, le tournage un an et un peu plus d'un an, 14 mois, et le montage 42 semaines. Bah, ça, c'est pareil, ça commence aussi au début du tournage, et le montage fait partie aussi de la compréhension de l'histoire et nous aide à programmer les plans suivants, la manière dont on passera la caméra dans l'arbre, pour voir telle ou telle information ou des contre-plongées, tout ce que vous voulez. Donc on a beaucoup travaillé en synchronisation, tournage, montage. Je me répète, quand on donne du temps au temps, les choses peuvent être très réussies.
Il y a également autour de vous une grosse équipe scientifique, il me semble.
Ah ben oui, parce qu'il faut que tout ça soit, c'est bien sûr inspiré de faits réels, si je peux dire, pour prendre une expression. Donc oui, il est évident que nous devons, quand on a un petit oiseau, celui qui chante doit être le bon bruit au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire que un chant de printemps, c'est pas un chant d'hiver ou c'est pas un chant d'été pour un oiseau. Les bruits de la forêt, pareil, ils doivent être réinventés tels que nous les connaissons, mais validés scientifiquement. Donc tout correspond, c'est-à-dire que jamais on va avoir un brame du cerf à une période qui ne correspond pas au brame, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites de façon très très sérieuse et très scientifique avec la chance d'avoir aussi le muséum qui nous a aidés, puis plein de techniciens et de scientifiques qui nous ont aidés.
Des images très belles, mais il n'y a pas seulement que des images, il y a également toute une atmosphère. Alors nous qui sommes à la radio, évidemment, le son nous plaît beaucoup. Il y a tout un travail sur le son également, et également sur la partie, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, sur la partie effets spéciaux. Comment on conçoit tout ça? Comment on se dit, finalement, je vais faire des belles images, du beau son, et en plus derrière, il y aura une belle animation en effets spéciaux?
C'est un travail un petit peu couche par couche. Vous qui êtes dans une radio, vous savez très bien ce que c'est qu'il y a plusieurs couches de son. Donc on commence par évidemment la couche des vrais sons de la forêt, c'est-à-dire notamment on va travailler avec un ingénieur du son qui va capter dans la forêt tous les bruits dont on a besoin, tous les sons dont on a besoin. Ensuite on va travailler sur le bruitage, c'est-à-dire que notamment quand on tourne avec des insectes. Le bruit des insectes, on n'arrive pas à le capter naturellement, donc il faut qu'on l'invente. Donc c'est un travail de bruitage avec des spécialistes qui passent beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, après, on crée ce qu'on appelle des effets sonores. On a un monteur son qui amène tous les effets qu'on veut entendre. Et enfin, mais c'est pas fini, il y a, si c'est des musiques composées pour le film, plus des musiques qu'on va utiliser, des musiques existantes. Et à la fin de tout ça, il y a un mixage qui est aussi là très particulier parce que on a voulu offrir aux spectateurs une ambiance immersive dans la salle. Et donc ce son est travaillé puisqu'il a été travaillé jusqu'en Atmos pour en faire une copie, une immersion globale pour en faire une copie d'exploitation qui sera en 7.1, donc très très technique et que nous souhaitons que les gens aient vraiment l'impression pendant la vision de ce film de se balader en forêt.
C'est votre premier long métrage en tant que réalisateur. C'est quoi le rôle d'un réalisateur sur ce film?
L'avantage, c'est que vous avez compris que les acteurs n'étaient pas très compliqués à diriger. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, ça m'a permis de ne pas avoir. Non, c'était plutôt. J'ai la chance d'avoir avec Laurent. Laurent, c'est un des plus grands cinéastes animaliers et un naturaliste formidable. Et moi, j'étais à côté de lui pour raconter l'histoire. Donc, passer toute la partie technique, participer au montage, m'occuper des opérations dont vous avez parlé, notamment les images de synthèse qui ont été mises en place, tous les effets spéciaux dont on a eu besoin pour faire pour raconter l'histoire. Donc, c'était une collaboration de complémentaire entre deux spécialistes. Moi, j'aime raconter des histoires et je l'ai fait dans plein de films en tant que producteur, mais souvent, je participais aussi à la narration. génération. Et Laurent, lui, a apporté sa patience et son temps à ce film pour qu'il ait justement ce côté totalement immersif, naturel.
Alors, il n'y a pas seulement le film, mais également tout autour du film, il y a plein de choses qui vont sortir. Il y a un livre, il y a un album jeunesse, il y a une bande dessinée, il y a l'édition du storyboard. Il y a donc une musique originale qu'on écoutera à la fin de cette interview. Il y a également une série de podcasts qui est en cours, c'est ça ?
Exact. Bon, écoutez, on a essayé, nous, de développer bon, toute la forêt, tout ce qu'on entend en dedans. Il y a un truc encore que vous avez oublié, d'ailleurs, qui est facile à télécharger, c'est le kit pédagogique qui a été distribué à toutes les écoles au début de ce trimestre, hein, les écoles primaires. Donc, on peut le trouver sur le site du film et on peut le télécharger si on a envie d'en profiter pour ses enfants. C'est gratuit, hein. Et tous les livres, et puis on va continuer aussi les opérations avec l'ONF, notamment sur d'emmener des classes en forêt pour leur apprendre l'importance de la forêt. Planter des arbres, c'est bien sûr planter des arbres aussi. Vous voyez, il y a aussi des actions, interactions. C'est pas un film militant du tout, c'est un film tout à fait que j'espère distrayant et comme une belle aventure. Mais on a aussi un rôle de pouvoir, à travers ce film, faire un petit peu de d'enseignement et de parler de la nature telle que nous on la ressent avec toute sa beauté et sa formidable utilité, quoi.
Ça va être ma question suivante, vous avez déjà répondu à ma question suivante. Il y a donc une campagne d'impact et un kit pédagogique qui est disponible. Comment vous avez fait le choix de ce chêne ? Vous avez visité beaucoup de chênes parce qu'il est bien situé, il est à côté d'un point d'eau, il est assez espacé par rapport aux autres arbres. Comment s'est fait le casting de ce chêne ?
Bah, écoutez, c'est assez intéressant votre question. C'est passionnant. Très bonne question parce que on pouvait prendre un chêne très beau. Alors, il y a différents chênes, différents endroits en France. On a visité quelques chênes magnifiques qui sont presque millénaires. Et puis, on a réfléchi que ça s'est paru très utile parce que c'était mieux de trouver quelque chose qui était pas loin de l'endroit où habitait Laurent, hein, puisque Laurent habite près de Brassus-en-Sologne, Laurent Charbonnier. Et donc, on a regardé les chênes dans la forêt, mais dans la forêt, on n'a pas de recul. Et puis, à un moment donné, on a eu l'idée de se dire, mais ce qui n'aurait pas une idée d'un chêne au bord d'un étang, la Sologne, il y a quelques étangs, et ça nous permet d'avoir du recul sur l'arbre et de le voir de façon différente. Et bien entendu, avec la chance aussi d'avoir l'eau autour, et la vie de l'eau est passionnante. Elle donne d'autres voisinages et d'autres habitants qui passent à côté du chêne.
Rassurez-moi, l'épisode 2, la suite, le chêne va pas être découpé et envoyé en Chine.
Ben écoutez, j'espère que celui-là il sera préservé à vie. Il a la chance d'être déjà trop vieux pour être exploité comme bois. Et puis, même s'il n'a que 210 ans, il a les pieds dans l'eau. Et juste pour information, ça peut intéresser vos auditeurs, un chêne, ça boit 200 litres d'eau par jour. Donc lui, il est bien placé pour être au bon café au bon endroit.
Merci beaucoup d'avoir nous avoir consacré un peu de votre temps. Et en tout cas, c'était un très beau film. On l'a vu ce matin. C'était un magnifique film. Et ben, merci.
Merci beaucoup à vous et merci d'aimer ce film et merci d'en parler.
C'était l'interview de Michel Sédoux, co-réalisateur du film avec Laurent Charbonnier. On écoute un petit extrait de la bande originale fait par Tim Dump. Le titre, c'est « Et tu restes ».
J'ai marché sur la mousse, à tes pieds nus, mon frère. J'ai senti les secousses, elles montaient singulières. Une sieste contre toi, adossée à l'écorce de mes maigres dix doigts. J'ai puisé de ta force dans les ombres et les nuits, les orages et la neige. Sous les trombes de pluie, quand la chaleur fait siège, quelles que soient les couleurs, les saisons, les contours, de la sève à tes fleurs, tu poursuis sans détour et tu restes.
Le Le Chêne et ses habitants, ça sera donc dimanche à partir de 16h au Majestic. On a des places à vous offrir si vous souhaitez remporter vos invitations. Il y a quelques invitations au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Laissez-nous vos coordonnées. On vous renverra un petit SMS si vous êtes tiré au sort. On fera ça en début d'après-midi. On va continuer avec Didier Caron. Qu'est-ce que vous en avez pensé du film, à part que les images étaient très belles? Ah pardon, j'ai pas relancé votre micro.
D'accord, on va pas revenir sur la qualité des images qui sont vraiment merveilleuses. Non, c'est un film effectivement qui montre bien l'importance des arbres dans la forêt. Bon, vous allez me dire, la forêt c'est quand même un peuple d'arbres, oui, mais ces arbres d'un âge certain, hein, puisque celui-ci a plus de 2 siècles.
Ouais, c'est ça, il est né en soi-disant en 1810.
Voilà, et donc on voit bien toute la biodiversité qu'il embarque avec lui. On comprend mieux l'importance de conserver cette biodiversité. On voit là le jet qui emmène des glands, qui va aller les cachés à distance, et ben il va les oublier parce que visiblement il se souvient plus de tout. Et puis ben c'est là que va sortir une nouvelle petite plantule d'un chêne, et c'est comme ça qu'on régénère la forêt. L'écureuil fait la même chose, il emmène un gland, il l'oublie. Les petits rongeurs, les insectes qui vont jusqu'au niveau des racines, puisque l'arbre, on le voit des racines jusqu'à sa cime. On voit l'eau qui rentre dans les racines. On l'a dit, hein, un arbre, ça vit que d'eau et de sels minéraux, et ça nous donne de l'oxygène et ça
stocke le CO2.
Voilà, ça capte le CO2 et ça produit des sucres. Donc voilà, chacun y trouve son équilibre. On voit même quelque chose qui n'a pas été souligné dans le film, mais qui me paraît intéressant. On voit bien aussi la cohabitation entre les racines de l'arbre et les champignons. Hein, toute cette vie dans les racines qu'on n'a pas l'habitude de voir, ben, je trouve qu'elle est particulièrement bien mise
en évidence. J'ai noté quelques noms qu'on peut replacer en repas le dimanche. Il y a radicelles et les ramilles aussi.
Oui, voilà, les radicelles, c'est les toutes petites racines. Et on voit bien autour cette espèce de filaments, des filaments mycéliens, donc mycéliens des champignons. Et là, on voit une explication assez rapide, parce que ce n'était pas le but du film, mais on voit bien l'association entre les champignons et l'arbre. L'arbre apporte des sucres aux champignons qui ne sait pas les synthétiser. Et par contre, il aide l'arbre à avoir des sels minéraux. C'est un bel exemple de symbiose. Et tout ça est important à bien comprendre, et on le voit assez bien. Et puis après, il y a la vie, effectivement, avec les cavités, avec les pics, avec tous ces animaux. C'est en maintenant cette biodiversité à un juste équilibre que l'on évite des phénomènes de prolifération et ainsi de suite. Donc, encore une fois, ça, c'est l'ami du sylviculteur, hein, toute cette biodiversité. Je crois que de plus en plus, on le comprend, et de plus en plus, on a envie de la préserver. Ça veut dire qu'il faut laisser dans nos forêts des vieux arbres. Ça, c'est le message qu'on pourrait envoyer à nos amis forestiers. Laissez-nous des vieux arbres dans ces forêts pour que justement toute cette biodiversité soit la plus riche possible.
Il y a un acteur qui est très présent, c'est le balanin, le balanin des chênes. Alors, assez particulier, hein, c'est un espèce de coléoptère avec des mandibules en forme de pic. Alors, je crois qu'ils appellent ça le rostre, c'est
oui,
ça,
c'est ça, ouais.
Où en fait, on le voit rentrer son rostre dans le gland du chêne pour aller pondre son œuf. Là. C'est assez particulier quand même. Je connaissais pas du tout cet insecte.
Oui, il y a beaucoup d'insectes qui se servent des arbres aussi pour se reproduire. Il y a des mouches, on les voit assez bien dans nos forêts sur les feuilles de feuilles de hêtre. On a des petites espèces de petites excroissances qui se mettent sur les feuilles. Et ça sert, la mouche pond son œuf là-dedans, et à l'automne, bah, quand la feuille va tomber, l'insecte va partir. Donc il y a toute cette symbiose en fait qui se met en place. Pour faire vivre la forêt.
Pour faire la vie, ouais, c'est ça.
Pour faire la vie, quoi, en fait.
Est-ce qu'il y a un arbre comme ça un peu remarquable à Compiègne, un chêne?
Alors, on en a plusieurs, évidemment. Alors, on a parlé tout à l'heure du chêne sous Saint-Pierre. Malheureusement, lui, il est maintenant, il n'est plus en état, mais il y a quand même le très connu chêne de Saint-Jean. Hein, qui a près de 800, je crois qu'il a 8 siècles, celui-ci, qui est un chêne sessile, qui a un port un peu particulier. Bon, il est plus en bon état, malheureusement, mais il vit encore. Et probablement, on a mis en évidence qu'en dessous, il y avait de l'eau qui passait. On l'a vu, l'importance de l'eau. Hein, un chêne, c'est 200 litres d'eau par jour. Là, s'il a de l'eau au pied, c'est bon. Et puis, il y a une deuxième peuplade, là, on va dire, ce sont les chênes des Beaumont, où là, on a des chênes qui ont plusieurs siècles aussi, qui ont été plantés à l'époque par les moines, à l'époque de François Ier. Donc, ce sont des arbres extrêmement vieux qui, là aussi, vont faire l'objet d'une mise en réserve biologique, justement, parce que là, ce sont vraiment des cohortes de ce qu'on appelle des vieilles forêts. Les spécialistes disent, en France, il y a la vieille cohorte des arbres de la Sainte-Baume, celle de Fontainebleau, et ils mettent aussi à l'intérieur de cette cohorte des vieilles forêts, la forêt, le secteur des Beaumont, le secteur des Beaumont.
Alors, en plus de ça, les arbres, quand ils meurent, évidemment, ils ont des enfants, hein, tous les glands qui vont pousser, des filles, des fils, etc. Donc quand même, ça va se régénérer. On peut espérer avoir encore de beaux chênes comme ça dans nos forêts.
Alors, oui, il faut tout faire pour qu'on ait encore des chênes comme ça, parce que j'ai cru comprendre dans une des réunions avec l'ONF que la volonté, c'était de faire du bois d'œuvre. Donc, du bois d'œuvre, ce sont des beaux chênes. Donc, il faut continuer de faire en sorte qu'on puisse continuer de voir des beaux feuillus dans notre forêt. Donc, la forêt va sûrement changer d'aspect parce que les grandes futaies cathédrales de hêtres, à mon avis, il va falloir les oublier assez vite. Mais on peut faire à côté de très très belles futaies de chênes ou d'autres feuillus. Hein. On voit apparaître, on peut imaginer des tilleuls, on peut imaginer un tas de choses. Justement, ce que j'ai dit au début, d'essayer de mélanger toutes ces essences pour qu'il y ait une cohorte très... très, très importante en essence, mais aussi en âge, avec des âges différents.
On rappelle le film, ça sera projeté dimanche à 16h au Majestic à Compiègne. Avant-première, le film sort fin février. Il s'appelle Le Chêne et ses habitants, donc film d'aventure de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux. Qu'est-ce que vous allez faire, Oise Nature? C'est quoi? C'est une discussion à la fin, un échange avec le public?
Oui, voilà, on va faire un échange avec le public. Jérôme Jaminon, le responsable de l'unité territoriale ONF de Compiègne, sera présent aussi. Donc, on pourra répondre aux questions du public et puis échanger sur la forêt et sur son devenir, sur la manière de la gérer. Je pense que l'ONF aura peut-être des choses à dire. Nous, on a aussi des choses à dire. Donc, on fera un débat avec la salle, comme d'habitude.
N'hésitez pas à envoyer un SMS au 06 95 065 026 06 95 065 026 pour tenter de gagner vos invitations. On pourra également adhérer à Oise Nature à ce moment-là,
c'est ça ? Oui, bien sûr. Oui, nous aurons des bulletins d'adhésion, donc aucun problème.
Didier Caron, merci beaucoup. On rappelle, vous êtes le vice-président de Oise Nature et vous étiez venu aujourd'hui pour parler du chêne et ses habitants. Diffusion dimanche à 16h. Merci.
Merci beaucoup.
Retrouvez la programmation de Graphite aujourd'hui, vendredi. Vous allez retrouver le rendez-vous culture qui aurait dû passer la semaine dernière, mais il y a eu un petit problème technique, donc il sera diffusé cette semaine. Il y aura également Reggae Fever, DJ Academy à 20h, et ensuite le programme du week-end, Pandel DJ, Culture Prohibée, l'émission franco-portugaise Vibra Soech, Biotine, et Groove Exploration en rediffusion, Polémique et la voix off. Toute la programmation, vous la retrouvez sur le www.graphite.net. Et si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est diffusable, enfin, réécoutable sur Facebook. Et également, n'oubliez pas de ces nouveaux le journal de Graphite à partir de 8h30 tous les jours avec Oran. Allez, bonne journée, bon week-end, salut.
J'ai une allure de cowboy, les...